I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séances Radio.
Absolument, vous écoutez bien Séance Radio. Bienvenue dans cette grande séance de ce mercredi 1er mars. On va vous présenter l'émission que vous commencez à connaître. Nous allons écouter tout à l'heure les coups de cœur de nos blogueurs, Barbara Govertz, Barbara fait son cinéma, Jérémy Pontieu, l'info tout court. Nos deux invités, et vous pouvez déjà penser aux questions que vous avez envie de leur poser, c'est Noémie Saglio, qui est réalisatrice, et Michael Dichter, qui est comédien, pour une comédie débridée, décoiffante, qui va sortir le 29 mars et qui s'appelle « Telle mère, telle fille » et où vous retrouverez Juliette Binoche, Lambert Wilson, Camille Cotin, qui est l'épouse, vous avez de la chance, Michael Dichter dans le film, l'épouse de Michael Dichter, et Catherine Jacob, entre autres, on parlera des autres comédiens. Alors Maëlle, comment fait-on pour correspondre avec nous ?
C'est très simple, Bruno, vous pouvez nous contacter sur le Twitter de Séance Radio, @Séance Radio tout attaché, en posant vos questions directement à la réalisatrice ou à notre ami le comédien Michael qui est là, avec tout simplement le hashtag AskNoémieSaglio pour vos questions sur le film. Et tout autre du métier,
voilà,
du
cinéma. Absolument, tout ce que vous voulez savoir sur le cinéma, comment on fait une comédie, comment on écrit une comédie, comment on dirige des comédiens, comment on dirige Juliette Binoche et Lambert Wilson, Noémie Saglio, voilà. On va parler du box-office, les tops et les flops côté France et côté américain, évidemment nos blogs, nos blogueurs, les événements, on parlera du festival du film policier de Beaune et du printemps du cinéma, pour même dire un petit quelque chose sur le Mobile Film Festival qui s'est terminé hier soir et qui est organisé notamment par BNP Paribas. Le débat, ça va être simple. On va revenir sur le résultat des Césars et des Oscars. Voilà, les résultats et puis peut-être l'ambiance des cérémonies. Et puis, on fera quelque chose, je le dis à nos invités qui n'ont pas l'habitude et qui le découvrent, de très marrant. C'est le blind test. Vous entendrez quelques-uns des extraits des films les plus primés de l'histoire des Césars et des Oscars. Il faudra deviner. Voilà, moi j'ai les réponses, mais pas vous. Voilà, dans un instant, les tops et les flops du box-office de ce mois.
La grande séance, le box-office.
Alors, côté français, il n'y a pas photo, c'est Alibi.com de Philippe Lachaud, qui est à 2 millions de spectateurs en 2 semaines. Donc c'est lui, hein, y a pas de, voilà, on n'en voit pas d'autres, il n'y a pas de concurrent. On signale quand même que Red Dingue de Danny Boone frôle les 4 millions d'entrées, ce qui veut dire que notre cher Danny Boone est toujours bankable, parce que si on refait l'histoire, 20 millions 4 pour les ch'tis, 7 ou 8 pour Rien à déclarer, autour de 5 pour Hyperchondriaque, j'en ai oublié, non ?
Non, c'est
voilà,
ça.
Voilà, pour Superchondriaque. Et puis là, il va peut-être atteindre les 5, si tout va bien. Donc c'est incroyable, voilà, enfin c'est incroyable, mais c'est comme ça, ça marche bien. Dans les flops, malheureusement, parce que moi je l'aime bien cette comédie, Si j'étais un homme, d'Audrey Dana, qui était au Festival de l'Alpe d'Huez, et qui n'en est qu'à 100 000 à peine entrées en une semaine, donc c'est quand même un échec, il faut le dire. Côté américain, et le top, c'est Tous en scène, qui a dépassé les 3 millions, qui est à 3 millions 2, le fameux film d'animation, avec notamment la voix de Patrick Bruel. En 5 semaines, 50 nuances de grès, j'ai marqué, mais je crois que c'est plus sombre maintenant.
C'est ça,
Barbara. 50 nuances de sombre, qui sans promo est arrivé à frôler les 3 millions d'entrées. On est à 2,8 millions, donc c'est pas mal. La La Land, pour un film quand même qui est relativement pointu, c'est quand même une comédie musicale. C'est pas un film a priori super grand public, est à 2,3 millions. Donc c'est voilà. Et puis je l'ai mis dans les tops. Et dans les flops, les flops, c'est John Wick 2. Mmh. Il y avait eu le 1 que j'avais vu. Je trouve que c'est une série B pas mal, moi, mais le 2, il fait 180 000 entrées en une semaine. C'est un échec. On est d'accord, Jérémy. Hein.
On peut considérer peut-être ça comme un échec, d'autant plus que John Wick 2 a été très très bien reçu, autant par le public que par la critique. Donc bon, à voir après. C'est peut-être des films qui fonctionnent très bien
mode, hein.
après aussi. Hein. C'est des films qui fonctionnent très bien en vidéo.
Ah
films qui vont fonctionner parce que le public va répondre présent pour voir ça chez soi.
Oui, Michael, petit commentaire.
Je pense la même chose.
Yes,
VOD. Vive la VOD.
Dans un instant, on se retrouve avec nos deux blogueurs.
La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
Barbara Govert, chère Barbara, vous vouliez nous parler de Monsieur et Madame Adelban de Nicolas Bedos qui sort quand la semaine prochaine ?
Oui, le 8, mercredi prochain.
Alors,
c'est un film, oui, que j'ai beaucoup aimé. J'avais pas spécialement d'attente, je ne savais pas, à quoi m'attendre. C'est un film qui a été écrit à quatre mains par Nicolas Bedos et par Doria Tillier, mais qui est réalisé par Nicolas. Et il évoque l'odyssée d'un couple.
45
et en effet,
ans.
45 ans, voilà. Toutes ces décennies de la vie d'un couple. Donc on les voit, donc ce sont Nicolas et Doria qui jouent les rôles
Doria
principaux.
Doria Tillier.
Tout à fait, qui joue donc les rôles principaux. Et donc, on les suit. Alors, si ce n'est le quotidien, mais en tout cas, on est vraiment immergé au sein de l'évolution de ce couple. Et c'est un très, très beau film. On rit. Il y a également de l'émotion. Je ne m'attendais pas à être emportée de la sorte. Et c'est vraiment, une déclaration également d'amour aux femmes. Il y a un petit twist final qui est très intéressant. Et justement, lors de la projection, Doria Tillier et Nicolas Bedos nous expliquaient le processus d'écriture de ce film, et t'expliquait qu'ils étaient très fans des films à twist final, et donc ils avaient voulu inclure ça. On les voit vieillir, et alors moi je suis pas, en général pas super fan, mais même pour les films américains, des films justement à effets, enfin c'est pas des effets spéciaux forcément, mais à maquillage, masque, etc. Et là c'est très très bien géré, j'ai trouvé, ça se fait naturellement. Et puis le montage du film.
Un nouveau procédé de vieillissement
sais pas plus, mais j'ai trouvé ça vraiment très réussi.
Nouveau,
et puis c'est bien fait, il y a pas de le montage les montre donc on découvre pas bim à la fin, on les voit pas vieillissant à la fin uniquement, donc c'est vraiment une belle découverte. J'ai beaucoup aimé et je le
Je partage, quelqu'un d'autre l'a vu ici, non ?
Non, mais j'entends que des belles choses.
Oui, parce que, évidemment, Nicolas Bedos, on le connaît sous son côté provocateur, mais c'est quand même un mec profond, extrêmement cultivé, qui a été à bonne école, qui a essayé quand même de se faire une place au soleil avec un monsieur comme Nicolas Bedos. C'était difficile, parce que ça a été une star immense de mon époque, hein. C'était De Vos, Bedos, Coluche, c'était des gens qui étaient les seuls en France à gouverner le one man show, et je pense qu'il a voulu exister en provoquant beaucoup et assez brillamment et en allant très loin parfois. Nicolas Bedos, là il se calme, il a fait son film et là il montre qu'il en a sous la pédale, parce que c'est vrai que moi je suis assis, je l'ai vu comme ça en disant tiens, Nicolas Bedos, parce qu'il avait fait déjà des essais de pièces de théâtre, etc. Et là c'est un très beau film. En plus la forme et le fond y sont. C'est émouvant, c'est drôle, c'est un coup d'essai, c'est un coup de maître. On verra ce qu'il fera par la suite, mais c'est vrai que c'est très réussi.
C'est un début prometteur.
Prometteur. Jérémy, alors ça c'est passionnant aussi, je viens de lire un article dans Libération là-dessus. La présence grandissante, ça va vous intéresser Noémie, et vous aussi Michael, la présence grandissante d'Amazon et de Netflix dans l'industrie du cinéma, et notamment à Hollywood.
Alors à Hollywood plus précisément, effectivement, il s'est passé quand même quelque chose d'assez important dans cette nuit des Oscars. Il n'y a pas eu qu'un bide historique totalement ridicule, très parlé, débattu. Il y a eu quand même la reconnaissance de la part de l'industrie cinématographique d'Amazon. C'était déjà en cours à travers les Golden Globes. Il y a eu Manchester by the Sea qui a eu deux récompenses, qui étaient distribuées
par Amazon.
Distribuées par Amazon, pas achetées. Ils en ont quand même pas mal, les films du contenu Amazon, mais il a été distribué par Amazon et c'est véritablement un pas en avant. Il y avait Jimmy Kimmel qui avait quand même commencé son discours d'inaugural en disant « Ce soir, Monsieur Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, si jamais vous recevez un Oscar ce soir, on vous l'enverra sous pli sous les 5 jours. » Très drôle, effectivement. Et il a eu le nez, puisqu'il l'a eu, son Oscar. Netflix était là aussi. Ils ont eu un Oscar, eux aussi, un Oscar un peu confidentiel. C'est le court-métrage du meilleur documentaire. C'est un meilleur documentaire court-métrage pour les casques blancs. Et effectivement, la grande différence entre Amazon et Netflix, et ça tient probablement pour ça qu'il n'y a pas eu plus d'Oscars de la part de Netflix, qui était en concurrence sur le meilleur documentaire pour 13, qui a été un film qui a été beaucoup 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 débattu aux États-Unis, qui a fait grand bruit, c'est le fait qu'Amazon accepte un peu de jouer le jeu et décide de distribuer les films en salle, ce qui les rend un petit peu plus acceptables par l'industrie hollywoodienne, qui a peur d'eux, il faut le dire. Il y a eu des témoignages qui ont été faits de producteurs hollywoodiens qui ont peur de l'influence grandissante d'Amazon et de Netflix, et cette reconnaissance sens-là, elle pourrait engendrer d'autres. C'est-à-dire, est-ce que Google demain se mettrait pas d'un seul coup à se lancer dans la production cinématographique avec Apple? On ne sait pas ce qui peut se passer d'ici demain et les acteurs changent.
Et Jérémy, vous parlez d'Amazon, c'est quand même Netflix qui va distribuer le prochain Scorsese.
Alors ça, c'est énorme.
Irishman.
Énorme. The Irishman, qui est en plus la réunion de De Niro et de Scorsese, donc le projet rêvé. Il y a peut-être Pacino qui y participe.
Qui n'a jamais joué, je vais pas penser qu'il avait jamais joué avec Scorsese.
C'est extraordinaire hein, quand même. C'est, ouais. Et Netflix obtient, c'est-à-dire que le film ne sera pas ou sera diffusé dans un parc de salles très réduit, parce que ça c'est la politique Netflix, c'est diffusé même d'abord sur leur plateforme avant d'être diffusé ailleurs. Ça serait un pas gigantesque en avant.
Bah, c'est-à-dire le vrai enjeu, c'est que le film de Netflix là, comme le film de Scorsese, vous allez l'avoir chez vous en même temps. Au même moment qu'il sera dans au moment où il sera dans les salles. Alors évidemment, là, la vieille garde, j'imagine Canal et autres, a peur, parce que la fameuse chronologie des médias est encore en place en France. On a envie de voir les films dans les salles, mais en même temps, on entend dire des jeunes auteurs de films, réalisateurs, qui acceptent l'aide de Netflix ou d'Amazon parce qu'ils disent on n'a pas les moyens de sortir le film en salle, et on sait qu'il y a 90 millions d'abonnés à Netflix pour 190 pays. Et si le film est vu, alors par
génial.
Il y a un truc qui m'a choqué, c'est que il y a un auteur, un réalisateur américain qui a eu l'aide comme ça de Netflix, je crois, et il a eu un cachet, il était très content, il a pu faire son film, mais par contre on lui a dit que il ne saura pas le nombre de gens qui verront son film, et donc ça sera, l'argent sera pas pour lui.
Pour
voilà. C'est un choix à faire. Hein.
Mais c'est vrai que moi je pense que l'intelligence d'Amazon et de Netflix, c'est d'avoir investi un maximum d'argent dans le contenu et finalement de pas être très regardant dessus. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont des abonnés gigantesques, donc 93 millions. Ils ont investi 6 milliards dans le contenu, c'est 20% de plus. C'est-à-dire que du coup, ils peuvent avoir un financement, ils peuvent produire maintenant des films à 90 millions de dollars. Il y en a un de David Ayer, le réalisateur de Suicide Squad, qui fait un film avec Will Smith, qui va sortir chez Netflix. On a la sensation que ça donne, c'est peut-être faux, qu'il y a un échappatoire chez Netflix et Amazon pour produire des films un peu plus audacieux que le reste, là où l'industrie hollywoodienne paraît un peu figée.
Oui.
Et c'est ce que Reed Hastings a dit un peu de manière provocatrice. Il a dit ça fait 50 ans que l'industrie hollywoodienne ne fait plus rien ou bouge plus. Alors après, c'est un sujet à discussion évidemment, mais c'est de ça dont ils profitent précisément.
Voilà, absolument.
Et plus ouvert à des castings différents.
Oui,
à des
absolument.
Ouais.
Ils ont
ça,
les moyens. Je ne dis pas qu'ils ont les moyens de perdre un peu d'argent, mais en tout cas, ils sont moins au taquet que les films américains, que Transformers, Lego, machin, truc chouette.
Que des suites.
Que des suites, que des franchises, des trucs. Et pour moi, irregardables. Quand on a été élevé à Scorsese, à Coppola, à Fellini, à autres, on ne va pas faire le vieux papy, mais quand même, c'est rude. Alors si. C'est quand même le paradoxe. Si l'arrivée d'Amazon, de Netflix ou de Google fait qu'on va voir des films un peu plus indépendants, dits indépendants, c'est assez intéressant.
Mais même en France, oui. Ça commence. Hein.
Ça commence.
Moi, on commence à me proposer des choses directement par Netflix.
Ah ouais,
c'est
carrément.
Vrai ça.
Ouais,
bah, voilà.
Mais
c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai que t'as du mal tout le temps à monter tes films avec des acteurs moins connus ou moins bankable.
C'est
on
ça
en parle, ce qui est quand même terrible, et que tout d'un coup, là, c'est complètement ouvert sur Netflix. Ils te disent, c'est surtout l'histoire, le contenu, la façon dont c'est fait, l'écriture.
Alors après le sacrifice entre guillemets, Noémie Saglio, c'est de se dire, mon film va pas être en salle tout de suite, voilà, il va pas y avoir des chants, les entrées, tout le tralala, voilà.
Ouais, mais ce tralala, il est pas toujours très gai.
Il est un peu stressant.
Il est un peu stressant.
On va en parler justement dans une minute, car c'est la séquence invitée tout de suite.
La grande séance, l'interview.
Donc, telle mère, telle fille, on a le plaisir d'accueillir dans cette grande séance Noémie Saglio, la réalisatrice du film, le comédien Michael Dichter. Je vais faire le pitch, je l'ai vu il y a très peu de temps, il y a une semaine. Donc, Camille Cotin, qui, si je me souviens bien, s'appelle Avril, à sa maman Mado, c'est ça, voilà, qui vit chez elle en fait. Voilà, c'est Juliette Binoche. Elle est cool, elle vit chez sa fille, elle trouve ça totalement naturel, elle fait rien de ses 10 doigts. Elle a divorcé il y a longtemps d'un beau mec, Lambert Wilson. Bon, et elle voit plus son mari. Quand ils vont en famille, ils font semblant d'être ensemble pour que les beaux-parents, les parents de Michael, soient pas trop choqués. Même si eux sont un peu étranges parfois aussi. Et on a le droit à une réunion de famille. Et elle va annoncer la bonne nouvelle. Le Avril, Camille Cotin, elle est enceinte. Voilà. Donc tout le monde devrait être super content. Eh ben, Juliette Binoche, la maman, pas tant que ça, parce que à la limite, il va falloir raccourcir l'appartement et elle est tellement bien que laisser la place aux bébés, etc. Ça n'est que le début, et après je me permets quand même de faire le deuxième épisode, c'est que il s'est passé quelque chose, vous verrez, ça vous le découvrirez parce que c'est une scène très jolie, et Juliette Binoche, à 40 et quelques années, on va pas trop la vieillir, elle se retrouve enceinte, et ça c'est terrible, parce que le personnage d'Avril, elle pouvait tout supporter de sa mère, mais lui faire concurrence en ayant un bébé au même moment qu'elle, ça va pas, et là elle va péter les plombs et tout va partir en vrille. J'ai bien résumé?
Exactement, c'est exactement ça.
Quelle histoire!
Bah ouais, c'est une histoire incroyable, mais ça arrive de plus en plus en fait, surtout en Angleterre, et il y a plein de, enfin on a lu énormément de reportages là-dessus sur des filles qui tombent enceintes en même temps que leur mère. En général, c'est des mères qui sont plus jeunes, qui ont eu leur enfant voilà, très jeune et qui ont 35 ans, et la fille tombe enceinte très jeune, à genre 15-18 ans, quoi. Et quand on a commencé à s'intéresser à ça, on s'est dit c'est un sujet génial, puisque déjà ça parle de féminité et de maternité d'une façon hyper originale, hyper comédie, c'est hyper porteur de comédie, mais aussi de moments d'émotion entre la mère et la fille, de sincérité. Enfin, moi j'ai toujours besoin que la comédie soit portée par quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'il y ait quand même des scènes de sincérité, qu'on croit à l'histoire, qu'on soit avec les personnages, sinon je trouve que c'est très ennuyeux d'avoir que des vannes. Et du coup, on a vraiment poussé l'histoire jusqu'au bout avec ma co-auteure Agathe Pastorino et on s'est éclaté.
Alors vous, pour rappeler aux auditeurs, on vous a découvert avec notamment Toute Première Fois, qui a eu un prix, le Grand Prix à l'Alpe d'Huez, ouais. Super, en 2015. Et puis, vous aviez co-réalisé aussi Connasse Princesse des Cœurs, toujours avec Cotin. Donc, c'est votre petite actrice fétiche, quand même.
C'est ma muse.
Elle était dans Toute Première Fois, elle était dans Connasse, et elle est là. Voilà, c'est votre muse.
C'est ma muse, c'est pour moi une des meilleures actrices de sa génération, puisqu'elle peut tout faire. C'est-à-dire qu'elle peut faire rire et faire pleurer, et ce, dans la même scène ou même dans la même phrase. Et tout ça sans jamais exagérer d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que même si on lui fait dire des choses plus grosses qu'elle, ça reste toujours très élégant et très juste.
Le grand public l'a découvert aussi dans 10%, parce qu'elle joue une agent de comédien un peu rude, un peu dure. Et elle était excellente aussi dans
elle
ce rôle-là.
Elle est excellente. Et en plus de ça, voilà, c'est une de mes très bonnes amies. On a à peu près le même âge. Et c'est un peu quand j'écris... Parce que j'écris tous mes films, enfin je co-écris tous les films que je réalise et que je pense à un personnage qui ressemble à la femme trentenaire que je suis aujourd'hui, ben c'est Camille toujours qui pour moi doit l'incarner. Donc,
Alors Michael Dichter, présentez-vous. Voilà, je vous le fais carrément.
CV.
Vous êtes comédien, réalisateur.
Qui êtes-vous, mon nom et mon prénom.
Et ben sur le film, en tout cas, je joue Louis. Oui. Le mari de Camille et du coup
non, mais
d'Avril.
Quand je disais présentez-vous, c'était plus largement. Vous êtes comédien, réalisateur.
Eh ben c'est ça, je suis comédien et réalisateur.
Ouais. Et réalisateur de court-métrages.
De court-métrage, ouais, je viens de finir d'écrire mon premier long-métrage.
Ah, c'est bon, c'est vrai.
Ouais.
Super, il va être financé, c'est sur les rails un peu.
On est sur le coup.
On est sur le coup. Et alors comment
on est sur le coup, je suis sur le coup aussi.
comment vous êtes connu et comment vous l'avez choisi? il est c'est vrai qu'il est à l'écran et on a l'impression heureusement qu'il est là pour calmer les jeux dans cette folie. Hein, le pauvre.
Mais c'est un peu ça.
Il est malmené, hein. C'est ça votre rôle. Hein.
Ouais, ouais. Il y a vraiment deux, trois figures masculines.
Ouais.
Je sais pas
vous
si j'en fais partie
calme.
Dans le film. mais c'est vrai que ouais, je suis là pour tempérer, en tout cas dans la maison, dans la coloc qu'on fait avec Mado et Avril.
Vous êtes super patient.
Ouais.
Parce qu'entre entre votre belle-mère, Juliette Binoche, qui est quand même un sacré numéro, votre épouse,
une
incrusteuse totale. Ouais. Ouais. Votre épouse qui pète les plombs quand même, à un moment elle n'en peut plus.
Mais qui finance la maison.
Oui, qui finance la maison. Ouais. Parce que vous faites pas grand chose, si je me souviens.
Si, non, je fais
une
thèse.
Des études.
Je fais une thèse, ouais.
Une thèse, mais un peu, ouais.
Une vraie thèse.
Oui, une vraie thèse, d'accord. Vraie mais thèse. Vous mettez beaucoup de temps. C'est un peu Tanguy.
Exactement.
Ouais, mais hein, c'est un peu Tanguy qu'on a revu à la télévision, là. C'est
et
un
ça
peu Tanguy.
Ça me faisait rire que Camille se retrouve vraiment mater familias de sa mère et de son mec.
Et de son mari.
Et c'est la seule à bosser. Et les deux, ils sont toute la journée dans la maison en train de traîner, de se faire des trives, etc. Et elle, c'est la seule qui est toute la journée au bureau et qui tout d'un coup va se retrouver à tout gérer, c'est-à-dire sa grossesse, le fait d'être la seule à avoir un salaire et la grossesse de sa mère. Et c'est là. Et en plus de ça, dans une comédie, c'est très important d'avoir un personnage un peu qui est comme le spectateur, c'est-à-dire qui va être le personnage où on se reconnaît, on se dit oh mon Dieu, le pauvre, c'est horrible,
le pauvre,
etc.
Il est super gentil, donc, super patient. À un moment, je me souviens, il s'énerve sur la table.
Je finis par.
Mais il remet les pendules à l'heure.
C'est ça.
C'est ça. Hein, absolument. Et comment vous l'avez trouvé? Vous le connaissiez?
Non, pas du tout. C'est mon directeur de casting que j'adore, qui s'appelle Antoine Carrarge. Salut. Qui m'a présenté. On a vu, je pense, tous les garçons de Paris de 30 à 40 ans. Vraiment énormément de mecs. Et il y avait peu de rôles sur lesquels on avait le droit de sortir un nouveau talent, ce qui est toujours hyper agréable.
Du coup, on a pris Juliette Binoche. C'est autorisé, ça.
Et c'est vrai qu'il m'a envoyé 40 personnes et j'ai vu Michael et j'ai tout de suite vu Michael. Mais comme il n'avait pas fait beaucoup de choses, et que c'est toujours un peu plus inquiétant, même si j'aime ça, je l'ai fait revenir 3 fois ou 4 fois. J'ai pris un verre avec lui. Je voulais
savoir
vraiment
s'il joue bien la comédie, quoi. S'il correspond au rôle.
C'est difficile, c'est parce qu'il n'avait pas de. C'est vrai qu'il a joué dans Vie Sauvage, mais on ne voit pas énormément.
Les voisins m'ont vu. Quand c'est passé sur Canal+.
Je pense pas qu'on t'arrête hyper souvent dans la rue. Mais après,
ça a été un flash.
Et on est devenus hyper potes et on fait plein de trucs ensemble à côté. Donc.
Alors, ma question que les auditeurs ont envie de savoir, est-ce que c'est toute première fois avait bien marché, avait eu un prix, ça vous a aidé pour faire le second le troisième.
Ce qui m'a aidé pour faire le Connasse, la série.
Mais celui-là. Est-ce qu'il a été facilité par le fait que Connasse avait bien marché en plus?
Très très bien.
Pas mal, combien il avait fait?
1,2 million.
Ah ouais, c'est bien ce dont je me souvenais. Et toute première fois, un peu moins?
Moi j'ai toujours 500 000, mais je pense 420.
Ouais, 420. Ouais, c'était pas un échec.
C'est pas du tout un échec, mais il faut toujours un petit peu arrondir.
Ouais. 500 000, 1 million.
Personne ne sait, de toute façon, les gens sont là. Ah oui, j'ai vu l'affiche, tu dis ouais, ça a hyper bien marché. Bon.
En 2015, est-ce que vous étiez dans les flops? Non.
Non, je crois pas.
De séance radio.
Non, pour un premier film, c'était super.
Ouais, c'était bien. Ah bah oui. Tout le monde aimerait faire un premier film à 500 000 entrées.
Voilà.
Et à peu près. Alors, est-ce que ça a été difficile? Tout le monde dit que c'est super compliqué à monter un film. Peut-être moins une comédie. C'est plus à la mode.
C'est moins compliqué. Après, on a pris un petit risque en prenant Juliette Binoche, qui n'est pas.
Vous n'aviez pas pensé à Valérie Lemercier au début? J'ai lu ça dans mes fiches.
Ouais. On a pensé à Valérie Lemercier, mais elle faisait son film et du coup ça a été tout de suite évincé. Moi j'avais hyper envie de Juliette. Après j'étais complètement, je me trouvais vraiment gonflée d'aller lui proposer ça.
Alors comment ça s'est passé?
Donc j'ai appelé son agent qui était mon premier agent, Samuelson, et donc je lui ai dit écoute, ça va être un peu bizarre, mais voilà, j'ai filmé avec Camille Cotin et on pense à Juliette, on trouve, parce qu'il me fallait une femme, c'était assez difficile à caster parce qu'il me fallait une femme de 45 plus.
Ouais, un peu plus, mais qui puisse être vive.
Mais qui soit assez sexy pour que ce soit pas bizarre qu'elle tombe enceinte.
Film,
elle est belle,
elle est vraiment belle.
Hyper belle.
Et qui puisse être quand même la mère de Camille, mais c'était très compliqué. Voilà. C'était vraiment, et puis puisse tomber enceinte. Donc j'avais pas une liste non plus et puis surtout j'adore Juliette depuis toujours, donc je l'ai appelée, je lui ai dit est-ce que tu crois que, et il m'a dit écoute, elle a assez envie d'une comédie peut-être, et j'étais là genre mon Dieu parce que moi j'avais vraiment l'impression de demander le Graal absolu. Et elle a lu dans la nuit, elle était en tournage à ce moment-là de Ghost in the Shell en Australie. Et elle a lu dans la nuit et on s'est skypé le lendemain et elle m'a dit écoute, ça m'amuse, on y va. Et après, elle a été super là tout le temps. C'était génial.
Et alors, vous exploitez ses talents de danseuse, parce qu'on sait qu'elle danse.
J'exploite tout. On me donne Juliette, je prends tout. J'ai tout exploité. Le rôle était déjà écrit comme ça, mais c'est vrai que c'est une excellente danseuse. Et ce qui aussi m'a amené à penser à elle tout de suite pour ce rôle. Et elle adore danser, donc elle était trop contente d'avoir toute cette partie là et puis j'avais vraiment envie de montrer aussi un aspect de la grossesse, pas la meuf qui est tout le temps chiante et en pyjama avec des hugs, mais qui fait des choses et qui profite. Enfin, ça peut être aussi un épanouissement. On n'est pas obligé de s'arrêter de vivre pendant 9 mois. On n'est pas obligé de devenir hyper relou. Enfin, j'avais vraiment envie de montrer une femme qui se redécouvre à travers cette deuxième grossesse.
Et qui est presque plus jeune dans son attitude que sa fille.
Elle la vit hyper bien et du coup, ça lui fait aussi prendre conscience de plein de choses, qu'elle doit faire des choses de sa vie, qu'elle doit pas s'arrêter de vivre et puis retomber amoureuse.
Et puis, il y a un joli petit couple inédit, c'est avec Amber Wilson. Ils sont charmants tous les deux.
Inédit. Ah. On l'a vu dans Rendez-vous de
Téchiné. Exact, absolument. Absolument.
Je l'ai su après, et d'ailleurs, j'ai vu le film après, pour tout avouer, mais.
Rendez-vous, c'était quelque chose comme film. Hein.
Bah ouais.
C'était une des premières fois qu'on voyait Binoche à l'écran, je me souviens.
Ils sont dingues, les deux.
Amber Wilson, on connaissait un peu. Ouais, c'est génial.
Mais là, dans le film, je les trouve aussi encore trop beaux.
C'est vrai, hein. Ils sont très séduisants.
Trop contente, tout le monde est bien.
Et comment s'est passée l'écriture alors? C'est un bon moment pour vous? Quel est le meilleur moment de...
Moi j'adore écrire et tourner.
Écrire et tourner.
La sortie,
après,
c'est pas génial. Et le
montage.
Le montage, c'est bien. Il y a des très bons jours et des jours absolument terribles. Donc c'est...
Pourquoi des jours terribles au montage?
Parce qu'il y a des jours où vraiment on a l'impression qu'on n'a pas avancé d'un poil et qu'on n'y arrivera jamais.
Ouais.
Et puis des jours, on a l'impression que le film est une tuerie atomique et que c'est vraiment hyper, c'est complètement bizarre que sur le tournage, on est toujours d'humeur assez constante. Pendant l'écriture, bon, t'as des moments où c'est un peu difficile, mais tu débloques toujours quelque chose dans la semaine. Donc, mais le montage, c'est vraiment violent pour ça, pour moi.
Alors vous, Noémie Saglio, telle mère, telle fille, il y avait aussi une histoire de famille, il y avait des parents, il y avait dans toute première fois, il y a beaucoup de... C'est la comédie, la famille, c'est quelque chose qui... C'est une source d'inspiration qui est très riche.
Très, très riche. Et moi, j'ai une famille très, très compliquée, c'est pour ça qu'il te marre. Où tout le monde est fou. Et donc, ça m'inspire beaucoup.
Non, c'est
vrai que j'ai une famille très compliquée avec énormément de remariages. J'ai 9 frères et sœurs.
Mais
en même temps, je suis fille unique, je suis aînée, je suis petite dernière. Donc, je vous laisse.
Ah oui, d'accord. C'est pas
c'est
mal, ça.
C'est hyper, hyper compliqué. C'est vrai que c'est pour moi une source infinie, mais là, j'en refais encore... sur le même thème, quoi.
Ouais.
J'ai l'impression que c'est son
fort. Michael, c'est votre première grosse et longue expérience
après
de comédien sur un plateau.
Moi, c'est la première grosse expérience.
Comment vous l'avez vécu?
Hyper bien. C'était hyper, hyper enrichissant, épanouissant d'être déjà devant.
Parce que vous avez un rôle super important. Vous êtes très, très souvent à l'écran.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça vous a plu?
Ouais. Oui, c'est très juste. Et il dégage une empathie. Hein. C'est pour ça que vous disiez le spectateur peut s'identifier. C'est un mec très très sympa. Je sais pas comment il est dans la vie, mais
il
a l'air
sympa.
Et puis un peu normal. Un peu
c'est
normal.
Quoi,
oui, c'est vrai. C'est un peu le curseur à côté. Les autres ont l'air complètement jetés.
Exactement.
Même Camille Cotta quand elle s'énerve. Parce qu'à un moment elle s'énerve. Mais on la comprend un peu en même temps.
On la comprend.
On la comprend un peu. Donc c'était. Mais vous vous dites réalisateur, mais vous restez comédien. Vous avez envie de faire ce métier de comédien.
En tout cas, les expériences que j'ai eues avec Cédric et là avec Noémie, qui est une grosse expérience. Ça m'a vraiment donné envie de continuer.
De faire les deux, quoi.
De faire les deux. Même si j'ai plus envie, quand même, de
réaliser,
faire réalisateur.
Ouais.
Et j'ai l'impression que c'est là où se trouve ma place.
Ouais. Vous avez comme suivi un cursus Fémis et tout ça, ou vous êtes autodidacte?
Non, j'ai fait un presque master à la fac.
Ouais.
Du coup, j'ai passé 5 ans à regarder des films.
Un peu comme le personnage.
Sans valider
vous allez
une seule année.
Vous allez être très bon en quiz, alors. Peut-être.
Et non, mais c'était hyper agréable d'être dirigé par Noémie, qui est hyper, hyper talentueuse. Et c'est pas parce qu'elle est là, mais c'est parce que vraiment, moi, pour ma première expérience, j'ai l'impression d'avoir bien fait le job. Et c'est vraiment dû en énorme partie grâce à Noémie,
et
à la direction d'acteur. Et après, de jouer avec Juliette Binoche, Camille Cotin, Amber Wilson, Philippe Vieux et Catherine Jacob, qui jouent aussi mes parents, c'est quand même quelque chose.
Est-ce qu'on dirige, vous savez, Noémie Saglio, on dit souvent que la direction d'acteur, ça se fait au casting. Bon, quand on choisit Juliette Binoche, on sait qui on choisit. Mais est-ce qu'on peut quand même un peu la diriger, Juliette Binoche? Bonne question.
C'est pas facile. Il faut un peu la diriger parce que déjà, c'est pas forcément un univers, la comédie. Et puis moi, j'écris de façon assez moderne et un peu rapide. Et c'est de la comédie de vanne quand même. Mmh. c'est pas forcément son univers de base, donc voilà, elle avait besoin, elle demandait
d'être
en fait
d'être
un peu boostée, et puis elle a vachement été dirigée aussi par jouer avec Camille.
Mmh.
Et c'était assez marrant de voir que au fil du tournage, elle a vraiment trouvé le tempo avec en regardant énormément Camille, et c'était assez drôle. Après, on lui laisse. Enfin, voilà, moi j'avais l'impression de lui laisser beaucoup de liberté d'être très à l'écoute de ce qu'elle avait envie de donner. Mais c'est vrai que, on a quand même beaucoup travaillé, la direction.
Vous restez avec nous et vous intervenez quand vous voulez, puisque l'émission se continue dans un instant. Mais en attendant, on écoute justement, on parlait des Césars, on écoute Ibrahim Malouf, qui a écrit la musique dans les forêts de Sibérie et qui a eu le César, de la meilleure musique, au dernier César. On se retrouve, tout le monde se redresse,
c'est
on
l'école,
met le costume,
quoi.
Voilà, pour cette séquence événement. Mais dans cette séquence événement, j'ai un événement un peu particulier parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de Noémie Saglio.
Ah non,
incroyable. Et comme on l'a su qu'aujourd'hui on n'a pas eu le temps de faire un paquet cadeau, mais on y a pensé quand même.
Ah, c'est trop gentil.
Vous allez voir.
Il hein.
faut l'ouvrir. C'est du lourd. Ah oui, il faut l'ouvrir.
Contente.
Donc, j'explique que Noémie Saglio est en train d'ouvrir le paquet cadeau et qu'elle découvre...
Ah, oh, génial. Hollywood, la cité des femmes.
Alors,
c'est parfait. Voilà.
C'est un super livre écrit par Antoine Cyr, qui a travaillé plusieurs années dessus. C'est un travail qui fera référence parce que personne ne l'a fait avant et qui montre qu'Hollywood a surtout, ça tombe bien, telle mère, telle fille, a surtout été la cité des femmes, et c'est toute l'histoire de toutes les grandes stars d'Hollywood.
Ah,
Marilyn Monroe, voilà. Et avec des anecdotes et avec un fond, parce que c'est un travail de fond. D'ailleurs, j'espère qu'il va avoir le prix, parce qu'il y a le CNC qui va décerner un prix du livre au cinéma cette année, et c'est un des plus beaux livres de cinéma de cette année. Et il vous l'a dédicacé, théoriquement.
Mais si.
Quelque part, ils ont dû vous faire une dédicace, Antoine Cyr. Voilà. Donc, c'était un des événements de cette émission, l'anniversaire
Meilleur cadeau.
On ne vous demande pas quel âge alors, hein, c'est pas...
35, ça va.
35, oui, ça va. Encore. C'est cool.
Bruno, je viens de me souvenir que c'était mon anniversaire aussi.
C'est pas possible.
C'est incroyable.
C'est vrai.
Ça tombe bien. Non, malheureusement, non, c'est une blague. J'espérais avoir un petit livre, mais non.
Alors, dans cette séquence événement, d'abord, le printemps du cinéma, c'est bientôt, dimanche 19, lundi 20 et mardi 21 mars. Vous savez comment ça marche. 4 € dans toute la France et pour tous les films, donc ça vaut le coup d'y aller. Vous savez que la Fédération nationale du cinéma est organisatrice, avec aussi BNP, puisque BNP Paribas, qui est partenaire exclusif des opérations de promotion de la Fédération, prolonge en fait la fête du cinéma. Normalement, c'est donc 19, 20, 21. Et du 22 au 28 mars, grâce à BNP Paribas, on peut gagner plus de 300 000 contre-marques. C'est les clients de BNP Paribas, c'est un peu tout le monde. On peut les gagner sur Facebook. Tous les détenteurs de la carte We Love Cinéma peuvent gagner des contre-marques en se connectant sur We Love Cinéma. Le réseau d'agences BNP offre 100 000 contre-marques. Voilà. Donc n'oubliez pas, le printemps du cinéma, 19, 20 et 21 mars, et BNP Paribas qui prolonge la fête du 22 au 28 mars. C'est intéressant. Et puis, là, c'est du 29 mars au 2 avril, le fameux film Festival du film policier de Beaune, qui est toujours passionnant, qui a succédé à celui de Cognac. On s'ennuie jamais parce que c'est des films policiers qui viennent de toute la France et de l'étranger aussi. Et il y a un grand prix, tout film et toute nation confondue. L'année dernière, c'était Diamant Noir. Non, c'est cette année, c'est Diamant Noir qui sera récompensé. Et n'oubliez pas que Neil Schneider avait eu... Non, c'est l'année dernière qu'on avait vu...
L'année dernière.
Absolument, ouais. L'année dernière qu'on avait vu Diamant Noir au Festival de Beaune. Et Neil Schneider a eu d'ailleurs pour Diamant Noir le César du meilleur jeune espoir.
Oui, au César. Effectivement. Voilà. Un très beau discours dans la foulée.
Un très beau discours. Et c'était un bon film, Diamant Noir. Moi, j'avais beaucoup aimé. C'était un très bon polar. Voilà. Donc, cette 9e édition sera présidée par Jean-Paul Rapneau. Il y aura un hommage à Park Chan-wook, le réalisateur qu'on connaît bien. Et il y aura une masterclass de Park Chan-wook, qui succède à Brian De Palma. Donc, une masterclass de Park Chan-wook, ça vaut le coup. Le 1er avril, au sein du festival, c'est Beaune. C'est la patrie du vin. C'est un joli festival. Voilà, ça vaut le coup d'y aller. Dans un instant, on se retrouve pour le débat.
La grande séance, le débat.
Alors, le débat, tout le monde peut y participer.
D'accord.
Tous ceux qui ont au moins vu les Césars ou ont entreaperçu des Oscars, et sur les résultats et sur la forme. Alors, tiens, Jérémy, vous voulez commencer? On va parler des Césars.
effectivement, moi j'étais un petit peu dans les coulisses. J'étais côté salle de presse au moment des Césars.
Super.
Et j'avais je me la pète à fond. J'avais l'impression.
Moi j'étais dans la salle. Hein.
Ah bah merde.
Et moi bon, j'étais d'accord. Chez moi.
Moi j'étais invité. Je me retire.
écoute, c'était. Il y a eu quand même finalement un palmarès quand même un petit peu quelque part qui pourrait se passer comme à la fois prévisible et un peu surprenant parce que.
Ouais. Prévisible
plutôt, mais le meilleur réalisateur pour Xavier Dolan, c'est pas forcément celui qu'on attendait plus.
Vendredi matin, j'avais dit Dolan, Isabelle Huppert et Divine.
Oui, Isabelle Huppert, hein. C'était déjà gagné d'avance, c'est
et
sûr.
Vous avez eu tout faux.
Mince, on s'est réveillé dans une réalité alternative. Voilà, c'est vrai que le triomphe de Elle, je suis pas forcément extrêmement fan du film.
Moi non plus.
Mais il a provoqué quelque chose à rebours que je vois pas si souvent dans les films. C'est-à-dire après le film, je me suis posé la question de savoir si c'était du génie ou une grosse fumisterie. J'arrivais pas à savoir.
Ah ouais, mais quand même.
Et j'ai réfléchi.
La question mérite d'être posée.
En tout cas, on voit pas ça tous les jours. C'est, je pense, pour ça qu'il a marqué.
Voilà,
c'est un film
c'est
qui laisse pas.
Moi, je pense, sans faire de mauvais esprit, que ce qui s'est passé autour des Oscars est revenu au César. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense pas franchement que Elle de Paul Verhoeven était le film qui méritait le prix du meilleur film cette année au César. Voilà. Il y avait d'autres films. Il y avait Victoria qui était très original. Il y avait d'autres films. Voilà. Mais je pense qu'on a tellement parlé de Elle et tellement parlé de façon justifiée d'Isabelle Huppert que voilà. Et puis les Césars, chaque membre de l'Académie des Césars, 4000 et quelques, reçoivent vous les recevez, Noémie?
Oui, cette année, je suis assez fière.
Bravo. Une centaine, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, une centaine de DVD, voilà, ils les reçoivent, les membres de les 4200 membres de l'Académie, mais ils les reçoivent un mois et demi avant le vote, et je pense que s'ils en regardent une dizaine, une quinzaine, c'est déjà énorme. Donc, évidemment, c'est pas forcément super éclectique, quoi, les votes. Hein. Moi, j'ai trouvé... en tout cas, il y avait pas du saupoudrage, mais... Et peut-être qu'aucun film ne sortait vraiment du lot. Il y avait quoi, 11, il y avait quand même 11 nominations pour France qui a eu la photo. Bon, ouais, la photo, c'est tout, ouais. La photo. Ouais, ouais. 9 pour Malout qui a eu 0 César. Donc, mais c'est normal qu'il y ait du saupoudrage. Hein. Il y a 150 catégories, enfin 150 Césars décernables, il y en a 22 qui sont décernés. Donc,
j'aimerais bien savoir avec combien de voix ils gagnent, parce que j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup de copinage, quoi. Ouais, moi, j'ai presque voté mes amis.
Mais c'est sûr que il y a du lobbying. Si toute une équipe de films se met à voter, parce que il y a peut-être que 60% des gens qui votent, tout le monde n'a pas le temps de voter. Il faut voter par Internet, il faut voter par la poste, etc. Donc, ils annoncent 75% des gens votent, mais peut-être qu'il y en a moins. Ouais, c'est assez compliqué.
Et puis, il y avait aussi un peu cet effet un peu curieux, c'est qu'on a eu des films, par exemple, Juste la fin du monde. C'est un film choral dans lequel les prestations. On a voté pour celle de... Enfin, il y a eu un vote. Je n'ai pas voté, mais pour celle de Huliel. Et finalement, moi, j'aurais par exemple décerné quelque chose à Marion Cotillard que je trouvais extrêmement surprenante. Pas
moi,
forcément
c'est Léa.
Moins Huliel.
Léa Seydoux.
Moi, c'est Cassel.
C'est ça qui est un peu aléatoire.
Et Cassel est génial.
Et même
Léa dans la chambre quand elle fume son pétard.
Ils sont tous super bien dirigés. Hein. Dolan est un super bon... Et alors, qu'est-ce que vous avez... Alors, Barbara, les résultats, vous êtes d'accord avec Jérémy?
Pas trop. Enfin, moi, elle, c'est vraiment une conviction. J'avais vu ce film à Cannes et je l'ai beaucoup aimé dès la première vision, voilà, et donc j'étais pour ce film. Isabelle Huppert également, voilà, on parlera après des Oscars peut-être. Moi, déception vraiment qu'elle ait pas eu l'Oscar. Et ensuite Divine également, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un film également qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Je suis très contente pour la jeune actrice qui a eu le
prix,
voilà, de la je pensais plus
le
à Déborah, c'est le second rôle, et meilleur jeune espoir, Oumaïra, si je me trompe pas. Voilà. Donc voilà, c'est très très
moi j'étais ça trop vraiment moi je suis très Déborah arrivée
C'était génial.
Parce qu'elle était pas aux espoirs et j'étais là mais c'est trop bizarre, il y a juste Mounia.
Et elle était dans les
Ça s'appelle Oulaya, hein, je suis presque sûr, mais
Oulaya, il y avait que Oulaya aux espoirs, et c'est vrai que Déborah me manquait trop, je me disais s'il y en a une, il y a l'autre, c'est un peu comme...
Alors vous avez été invité, vous n'y êtes pas allé, pourquoi?
Non mais déjà j'ai été invité au dernier moment par un ami qui est dans l'organisation. Mais bon, je l'avais fait l'année dernière, je devrais pas dire ça. Non mais je suis pas très...
Très concours.
Non, très serrage de pince.
Très mondaine, très mondaine, voilà.
C'est pas exactement mon truc préféré, donc c'est vrai que quand on a envie d'aller à une fête cinéma, il faut y aller, mais sinon, j'étais pas
Et vous, Mickaël?
Moi, j'ai déménagé en... Je sais pas si j'ai reçu la bonne... enfin, je sais pas à quelle adresse ils ont envoyé l'invitation, mais si je l'avais reçu, j'aurais été avec plaisir.
Alors, qui l'a vu à la télévision?
Ah bah moi.
Moi non.
Voilà.
Ah ouais.
Alors, est-ce que vous avez pas trouvé ça un peu longuet?
Bah c'est toujours un peu le cas, non?
Ouais,
je peux
j'ai l'impression que c'est chaque année qu'on a comme ça des longueurs sur les Césars avec des sketchs inégaux.
Sauf l'an dernier, peut-être avec Florence Foresti, qui vraiment.
Moi, ce que j'ai trouvé longuet, c'est pas Jérôme Commandeur, qui était très drôle.
Ah ouais.
Mais c'est
drôle.
Qu'il faut qu'une bonne fois pour toutes, comme l'avait annoncé un présentateur, je sais pas si c'était Florence Foresti ou l'année d'avant, il faut exonérer, dispenser, soulager tous les synonymes du dictionnaire. Les remettants des remerciements. Il faut dire au début, comme l'avait fait une fois, on va remercier tous ensemble, on se fait lever la salle, on fait un merci général à l'avance. Voilà, vous vous levez tous, on remercie tous les producteurs, tous les distributeurs, tous les papas, toutes les mamans. Et après, parce que la petite Déborah, c'était vachement bien ce qu'elle disait, qu'elle parlait d'Anne Girardot. Mais les autres, 80% des 3h15 des Césars, ça a été pris par... Je remercie mon producteur, mon distributeur, mon équipe. Ah oui, mais non, ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent.
Non, mais c'est vrai, je te jure.
Non, moi, je sais pas.
Michael.
Si j'avais
Dister.
Été. Si un jour je suis appelé.
Ça arrivera. Là-bas. Mais ça va arriver.
Mais je pense que. On se laisse une minute et pendant une minute, on a vraiment l'occasion de remercier tout le monde et de voir.
Ça durait plus qu'une minute.
Ouais, non.
C'est-à-dire que le temps.
Tu dis merci tout le monde. Maintenant, je vais faire une vanne.
Voilà, c'est ça, le temps.
Le temps
de parole, en fait, qu'ils ont, et qui est peu, c'est 2 minutes, 2 minutes 30, est pris par les remerciements. Et du coup, ils n'ont pas le temps de dire un truc sur le film, de dire un truc sympathique, de dire une impression, de voilà. Et c'est ça qui est dommage. Et en tant que spectacle, télé ou dans la salle, c'est long.
Ouais. Ouais, par exemple, Déborah, c'était parfait.
Ouais. Ah ouais, il y avait Déborah, il y a eu.
Et puis parfois c'est émouvant, parfois c'est pas hyper émouvant.
Oui, parfois c'est très émouvant. Ouais, ouais. Parfois,
l'année dernière, il y a eu celui de La Tête Haute qui était trop émouvant.
Oui.
Et franchement, ça aurait pu durer 30 minutes.
Le petit Rod
Parado.
Le petit Rod Parado était tellement émouvant. Ouais. Non, il y en a tous les ans, il y en a un qui sort.
Oui, parce que voilà.
Il a préparé un truc aussi. Pas que genre.
Moi, je m'y attendais vraiment pas. Bah, t'étais nommé quand même.
Et les Oscars, est-ce que vous avez vu tous les deux, Noémie Saglio, Michael Dichter, des films qui étaient présentés et proposés aux Oscars, comme La La Land, etc.
Ah ouais.
Vous avez eu le temps?
La Land, on l'a vu.
On l'a vu, pas ensemble, mais ça fait quelques semaines qu'on en parle, après l'avoir vu, parce qu'on a vraiment tous les deux beaucoup, beaucoup aimé. Ouais. Mais je crois que tout à l'heure, Noémie, elle a réagi, mais moi, j'ai vu Manchester by the Sea.
C'est beau, non?
Adoré.
Elle aussi, c'est magnifique. Incroyable.
C'est magnifique. Moi, j'étais scotché. La La Land, si je peux me permettre, La La Land, j'ai vu quand même que c'était du cinéma. J'étais pas dedans. J'ai vu que c'était un magnifique exercice de style. Mais je vois le mec filmé. Peut-être que le mec se regarde un tout petit peu filmé. Le Damien Chazelle. Alors que Manchester by the Sea, je suis cueilli. J'oublie qu'on est au cinéma, là.
Et Lion aussi. Moi, j'étais triste que Lion n'ait rien.
Ah ouais, Lion n'a rien.
C'est vrai.
Mais on parle pas de Moonlight.
Ouais, alors là, je suis très très content que tu prennes la parole.
Alors, pour en parler,
passons
aux Oscars.
Il faut défendre Moonlight.
Moonlight, vraiment. Alors, ne revenons pas, une fois de plus sur.
La bourde, oui.
La bourde, voilà, mais.
Je plaisante.
Quel bonheur, de voir Moonlight primé, qui est vraiment un grand film. Alors, moi, vraiment, je me suis pas précipitée, je le dis très sincèrement, justement, je me méfie toujours un peu de cette course aux Oscars, et puis le pitch, je trouve, un autre réalisateur aurait pu rendre ce film, mais larmoyant possible et glauque, et je sais pas. Là, c'est une merveille. Vraiment, moi, j'ai aimé ce film, je l'ai vu deux fois, avec le même plaisir la seconde fois, et c'est, je trouve, un très grand film, vraiment, d'un grand réalisateur.
L'un des acteurs a eu un.
Oui, Mahershala Ali. C'était mon grand bonheur parce
c'est
que je l'ai trouvé. C'est un acteur qui fait 30 minutes qui passe 30 minutes dans le film. Ce qui est typiquement ce qu'on voit à certaines cérémonies des Oscars. Il y a un acteur comme ça qui est tellement foudroyant qu'il imprime.
C'est celui qui joue le rôle du personnage à la fin.
Du dealer au tout début.
Le
père de substitution.
Il est extraordinaire et c'est un bonheur de voir aussi. De le voir lui récompensé, de voir ce qu'il porte aussi en lui récompensé, parce que ça change un peu des acteurs qu'on peut voir aussi un peu à droite à gauche.
Et vous regrettiez Isabelle Huppert, mais elle n'était pas favorite quand même. Il y avait quand même Emma Stone, il y avait Nathalie Portman.
J'ai trop rien, parce que j'ai rien contre Emma Stone, mais c'est pas. J'ai aimé La La Land, vraiment, clairement, mais je trouve qu'Isabelle Huppert, vraiment, pour moi en tout cas, elle était favorite.
Noémie,
moi, j'ai aimé Nathalie Portman énormément dans Jackie. Ouais. J'ai adoré, mais j'ai l'impression d'être seule.
Mais moi, je suis seule à ne pas avoir aimé du tout le film.
Ah oui.
Non, vous n'êtes pas la seule. Le film est un peu froid.
Tu n'es pas tout seul.
Et j'ai aimé ça.
C'est pas me rassurer.
Ce soir-là, ça m'a complètement. Mais après, c'est tellement bizarre le cinéma. Ça dépend tellement de l'état dans lequel on est. Mais ce soir-là, ça m'a complètement retourné. J'ai envoyé 18 textos aux gens en disant allez voir ce film. Et après, c'était là.
Jackie.
Franchement, Naomi, tu nous as beaucoup
passé à côté.
Mais vous savez, il y a eu aussi des déçus de La La Land, parce que le film a été pas surévalué, mais on en a parlé. 2-3, moi j'ai commencé à en entendre parler, le film de Damien Chazelle, 3-4 mois avant la sortie, par des gens, la journée des distributeurs en novembre,
même
à Deauville, La La Land, vous allez voir, c'est quoi, La La Land, tu vas voir, c'est extraordinaire, et puis il sort qu'en février, et voilà, et puis moi je le vois, et du coup, les gens, le public, même le public cultivé, etc., va le voir, et dire, vous nous aviez dit, mais moi je me suis un petit peu ennuyé. Alors ils sont gênés parce qu'ils se disent, est-ce qu'on a le droit de s'ennuyer un tout petit peu à La La Land? Voilà. C'est un
difficile
film,
de voir les films avant. C'est toujours un peu dangereux.
Et vous avez le temps avec vos métiers respectifs, Michael et Noémie, d'aller au cinéma? J'ai l'impression que vous allez assez souvent au cinéma.
Mais c'est la base, non?
Ah bah oui, mais moi je crois beaucoup de gens du métier qui n'ont pas le temps, qui travaillent et qui finalement ne voient pas tant de films que ça. Alors ça paraît paradoxal, mais ça l'est pas tellement.
Non, c'est vrai.
C'est vrai, hein.
Mais j'y vais, oui, j'y vais beaucoup. Parce que je trouve qu'il faut se tenir au courant et regarder un petit. Il y a des modes aussi, il y a des façons de filmer, il y a plein de choses à regarder. Des acteurs qui reviennent dans des tout petits rôles et qui te donnent une idée. Des trucs qui ont déjà été faits que t'as pas envie de copier. Donc, il faut faire attention, quoi.
Ouais. Et vous, Michael?
Moi, je vais au moins.
Régulièrement
Je vais au moins deux fois au cinéma par semaine.
Ah, c'est énorme! C'est ouais, pas mal.
Je
si,
pourrais
c'est
y
pas
aller
mal.
Encore plus, c'est que j'ai
ça
pas.
Ça fait 100 films par an quand même.
Ouais, et mais après, on en parlait tout à l'heure au début, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent sur, sur Netflix et sur. Que je regarde aussi, quoi, qui prennent aussi un peu de temps. Beaucoup de séries.
Ah, vous voyez, vous, sur. Alors, sur quoi vous le voyez? Sur quel genre d'écran?
Grand iPad, moi.
Ouais.
Ah, sur quel. Bah, ça dépend où je me trouve. Si je suis dans mon salon, bah, c'est sur le vidéoprojecteur.
Vidéoprojecteur, quoi.
J'ai troqué ma télé contre un vidéoprojecteur parce que j'ai un mur blanc.
Ouais, c'est super idée. Donc si là, c'est un peu condition cinéma.
Ouais. Et si quand je finis le film dans la chambre, je regarde sur l'iPad.
Ah ouais.
Et si je suis aux toilettes, et ben c'est avec mon téléphone.
On peut voir un film sur téléphone?
Ouais, sûr.
C'est pas. Ça dépend lesquels, hein.
C'est vrai?
Bah ouais, c'est petit. Non? Qu'est-ce que vous en pensez de Noémie? Elle a pas l'air
pour. Pour mes films, ça ne me pose pas de problème. Mais après, je pense qu'il y a certains chefs-d'œuvre qui vont mieux regarder en grand.
Peut-être voir Silence de Scorsese un iPhone. Bon, ce serait peut-être.
Ouais, c'est un peu dur parce que tout est beaucoup dans l'image et dans la mise en scène. Et ouais, absolument. Bon, est-ce que tout est dit sur les Oscars, une réflexion?
Non, moi je suis un petit peu triste pour l'Oscar du film d'animation, parce que Zootopie c'est quand même un choix extrêmement, je trouve, enfin assez consensuel finalement. Ouais. Même si le film a ses qualités, c'est un Disney un peu différent, j'ai trouvé que c'était dommage. C'est pas seulement le côté cocorico, mais c'était dommage de pas avoir la Tortue Rouge, la Maïe de Courgette quelque part dans les Oscars, qui était quand même deux films très beaux.
Il était nominé, mais bon. Et la Tortue Rouge, c'est un petit bijou, hein, quand même.
Alors, Tortue Rouge, oui, c'est un petit bijou, oui.
Qui aurait pu plaire, parce que c'est un très beau. Vous l'avez vu, non?
Je l'ai vu, mais moi, je suis passé à côté, mais.
Ça dure 1h10, il n'y a pas de dialogue, il n'y a que de la musique,
c'est
très métaphysique, c'est très beau, voilà. Ça aurait pu. Et donc voilà, ces Zootopie, ça c'est un petit peu classique.
C'est un petit peu dommage. Et il y a un deuxième qui m'a réjoui beaucoup parce que je suis très 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 fan de son travail sur scène. C'est James Tirrey qui a eu le César du meilleur second rôle.
Ah exact.
Ce qui est un peu dur pour Omar Sy parce que les deux fonctionnent vraiment tellement bien en binôme que finalement on aurait aimé récompenser les deux. Mais je me réjouis de le voir. Ça c'est vraiment titre personnel, quoi, parce que c'est un artiste que je trouve incroyablement
complet. Moi j'aime énormément son travail sur scène. Aussi.
Oh, c'est extraordinaire.
Est-ce qu'il y avait des grands absents César à part Maloute qui aurait pu avoir quand même un ou deux Césars?
France, ouais, on en a déjà parlé.
C'est tout.
Je pense que La Vie Aquatique aurait pu avoir plus de choses, non?
Oui, ouais. C'est un très joli film.
J'ai trouvé ça très joli.
Très très joli film. Il a eu le scénario, c'est ça, non?
Ouais, c'est un scénario original, ouais.
Je crois.
Je me suis un peu attristé de voir dans nulle part Les Ogres, que j'avais adoré de Léa Fener. Qui passait inaperçu, qui était un film extraordinaire. Il était nommé.
Il était nommé.
Dans mon souvenir, il est nommé à une catégorie. Je me souviens même pas de laquelle, mais à vérifier. Je me désole parce que c'est un film vraiment formidable, quoi.
Et meilleur premier film qu'il a eu.
Divine.
Ah oui. Ouais.
C'est Divine, hein, qui a eu le meilleur premier film, qui a eu l'actrice du meilleur second rôle et qui en a eu un autre. Qui en a eu.
Révélation féminine.
Espoir féminin.
Absolument. Et j'en profite pour dire, pour rendre hommage à BNP Paribas, parce qu'ils avaient. 6 films qu'ils avaient coproduits, en tout cas aidés financièrement directement ou indirectement, ils ont eu 13 Césars à travers ces 6 films. La danseuse, Elle, Divine, La danseuse c'est un beau film, Juste la fin du monde, Ma vie de courgette et Chocolat. Donc à travers ces 6 films et 13 Césars, bravo pour BNP Paribas. On se retrouve dans un instant pour notre fameux blind test.
Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test. Alors, dans votre émission 100% cinéma.
Attention. Donc, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? C'est plus facile que certaines fois. Oui, je trouve, moi, qu'il est résultat sous les yeux. Parce que c'est quand même des films connus. Puisqu'ils ont été primés aux César et aux Oscars. Ah, d'accord. Il faut indiquer le nombre de récompenses. Ça, c'est pour là et ça, c'est pour première. Attention, on entend. Attention, vous êtes prêts parce que celui-là, il devrait être relativement facile. Vous le connaissez tous. C'est parti.
Ça t'intéresse?
Quoi?
Les bouquins. T'aimes lire?
Divine.
Un prophète.
Ah.
Un prophète.
Je sais pas quoi.
Bravo.
Ah, oui.
Un prophète de Jacques Audiard. Un prophète de Jacques Audiard.
Combien de récompenses, c'est ça qu'on doit dire?
Les paris sont ouverts parce que c'est incroyable. C'est incroyable par rapport au saupoudrage qu'il y a eu cette année.
Ça, je saurais pas dire.
Moi, je dirais 7, mais.
Et moi, je dirais 27.
Mais Tar avait eu Révélation et meilleur acteur, si je me souviens bien.
9 Césars.
9, ouais.
C'est dingue, hein?
Ouais, c'est
incroyable. Mm. Attention.
Mais chef-d'œuvre.
Ça, c'est un film. C'est pas trop votre époque. qui a été primé aux Oscars.
Écoutez-moi à présent. Vous êtes tous des condamnés.
C'est en VF, hein.
Vous maintenons en vie dans l'intérêt de ce navire. Alors, ramez bien.
Ramez bien.
Et vous vivrez.
Ben Hur, non ?
Bravo, ramez bien. Ben Hur.
Ouais.
Ah. 1900 de William Wyler.
William Wyler, ouais.
1959, quand même. Personne n'était né ici, sauf moi. Combien d'Oscars ?
Bah c'est pas 10 même, c'était énorme, non ? C'est un chiffre.
C'était 11 Oscars.
11, oui, c'est ça.
Incroyable. Super facile, on y va.
J'avais l'impression que vous entrepreniez quelque chose avec toutes les femmes, sauf moi.
D'abord, c'est pas toutes les femmes. Et puis, vous m'intimidiez. Parfois, vous me regardiez sévèrement. Et même avec une certaine dureté.
C'est oublié, non ?
Avec une certaine dureté, vraiment ?
Ah oui, je vous assure, je me sentais jugé.
C'est Pardieu.
Bah oui, oui.
Mais non.
Et c'est Pardieu et Catherine Deneuve.
Oui, c'est Catherine Deneuve, oui.
Le dernier métro.
Ah oui, Truffaut.
Oui,
oui,
bien
d'accord.
Sûr. Mais bien
mais
sûr.
Oui. Oh là là.
Et tout ça. Oh et combien de César, le dernier métro ?
C'était
très connu. C'est un record. Ouais. 10 César.
10 César,
ouais. En 1980, vous avez des excuses. Attention, ça c'est plus jeune. Ça c'est plus jeune, pas né.
Ce jour n'appartient pas à un seul homme, mais à tous. Reconstruisons ensemble ce monde.
C'est un film américain en VF.
Afin de pouvoir partager des temps de paix.
Je suis obligé de vous préciser. Hein. C'est pas évident, hein.
Ouais, c'est en VF.
C'est le Seigneur des Anneaux, le retour du roi.
Un record de l'histoire des Oscars.
Alors combien ?
Bah, c'est 13, non ?
11.
11, oui.
2004.
Bah, comment c'est un record ? On en a déjà eu un de 11, là ?
11, il y a eu Ben Hur, il y a eu Seigneur des Anneaux, il y a eu le dernier.
Il y avait 14 nominations, mais La La Land en a eu 6, hein, donc...
Nul.
Attention, attention, numéro 5, facile.
Ah, vous êtes pas Marc Duverrier ?
Non, c'est mon patron. Il n'a pas pu venir, malheureusement, il avait une affaire importante.
Non, c'est pas facile, en fait.
Vous occupez des affaires pas importantes, donc.
Voilà. Enfin, vous m'avez compris.
Bon, je vous ai tout à fait bien compris. Hein.
Alors, c'était On connaît
c'était
la
Garcia.
Chanson.
Ah.
C'était pas évident, c'était hein, parce
Garcia.
Qu'il n'y avait pas de chanson dans la Rennais en 1999 et il avait eu 7 Césars. Là, c'est ça va être facile parce que rien que s'il y a un bout de musique ou je sais pas quoi, ça c'est un must de must de must. C'est parti.
Titanic.
Bah oui, Titanic.
C'est l'autre record, c'est 11.
Et absolument. Quelle année ?
C'était 98.
97.
Bravo.
17.
Ah, 97.
Très très marrant. Très marrant pour moi.
Ouais.
À l'époque, on était avec mes sœurs et ma mère et on devait aller voir les Spice Girls, le film des Spice Girls.
Ouais.
Sympa. Et du coup, la salle était pleine.
C'est pas vrai.
Et donc, on a dit bon bah foutu pour foutu, on va aller voir Titanic. Et du coup, c'est comme ça qu'on était.
Vous aviez quel âge ?
Il y a le nez fin.
88. J'avais 9 ans.
Incroyable, ouais, il était voir Titanic à 9 ans, Michael.
Ouais. T'as aimé la scène dans la voiture où il y a la main avec la buée ?
J'avais pas compris à l'époque.
Il jouait en fait à l'intérieur.
Numéro 7.
Il jouait à...
Je le trouve petit, tout petit, minuscule.
Hein ? Comment ? M'accuser d'un pareil ridicule petit.
Cyrano de Bergerac.
Cyrano,
Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau.
J'adore.
1990, combien de Césars ?
7.
Ouais, 8, moi j'aurais dit, mais.
10.
10, ouais.
Incroyable, encore un record comme le dernier métro.
Hein. Oh là là.
Ça c'est incroyable.
Fois,
bah, 10 César sur les 20 qu'on accorde, hein. C'est incroyable.
Une des
hein.
plus belles prestations d'acteurs de tous les temps. Hein.
Non mais c'est fou parce qu'avant on voyait beaucoup plus les films, ils passaient 1000 fois à la télé, t'as pas l'impression ?
Ouais, si, si, mais c'est pas faux.
Celui-là, moi je l'ai vu 10 fois quand j'étais petite.
Ouais. Incroyable. Attention, un grand classique américain, alors en VF.
Monsieur, vous n'êtes pas un gentleman.
Et vous n'êtes pas une lady.
Oh.
Loin de moi la pensée de vous en faire un reproche. Les femmes du monde n'ont aucun charme pour moi.
Votre attitude a quelque chose d'ignoblement bas et vous m'insultez en plus.
C'était de ma part un compliment.
Clark Gable, Vivian Leigh. Autant n'emporte
mais
le
oui,
vent.
Oh.
Ouais, mais c'est difficile, hein, là, je vous l'accorde.
Non,
mais
non,
version
non,
française.
Non, en français, oui,
c'est un peu spécial.
Lady.
Hein.
Et ça date heureusement que je t'écoute.
Et ça date de 1939, hein, donc vous avez des excuses. Hein. 8 Oscars.
8 Oscars.
Ah, là, vous connaissez tous.
Me fous la paix.
Tu sais pourquoi je lui sers d'alibi ? Parce que je suis amoureux de toi.
Casse-toi.
T'as entendu ? Je suis amoureux de toi. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai envie de toi.
Ah, c'est difficile. Hein.
C'est toujours dans le questionnaire qu'on est mauvais.
De ah, battre vraiment... mon cœur, c'est
mais
un
rien. Ah,
elle a perdu
Jacques
Audiard.
Ouais, ouais.
Là
Romain
aussi,
Duris.
Romain Duris, c'était Romain Duris. Là aussi, pas mal d'Oscar, de César, pardon. Combien ?
9. 8, moi, j'en ai.
8, bravo. 2005.
Et alors
là, je dis tout le temps,
ça marche. Il y en a un qui est difficile. Allez, le dernier, le dixième.
Mesdames et messieurs, nous vous avons prié de vous rassembler ici pour proclamer notre droit à être traités comme des citoyens de l'Empire à part entière. Pas un de nous ne cherche le conflit. Nous connaissons l'ampleur des forces déployées contre nous. Et pour ce motif, nous n'utiliserons que les moyens pacifiques.
Pacifique, c'est le seul truc, les moyens pacifiques qui pourraient mettre sur la voie. Gandhi.
Gandhi avec la voix française de
Dimitri. Ouais, la voix française d'un bloc. Non,
c'est ça. Richard Attenborough. C'est ça. 1982 et qui avait 8 Oscars. Ouais. Voilà. Bon. Vous avez été honorable.
Bah moi j'ai été complètement nul, hein. Je rirais pas.
Ça s'est pas entendu.
Il y a l'excuse de la VF pour les Oscars.
Dans ouais, un ça, instant, je vais prendre cette excuse.
Dans un instant, la conclusion de cette émission.
La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Il me reste à remercier grandement Michael Dichter et Noémie Saglio.
Merci à vous.
En disant que sa comédie Telle mère, telle fille, que leur comédie Telle mère, telle fille sort à la fin du mois. Donc apprêtez-vous, notez-le sur vos tablettes avec Juliette Binoche, Lambert Wilson, Michael Dichter, Camille Cotin et toute la bande. Comment on peut, vous nous rappelez comment on peut intervenir pour l'émission en quelques secondes?
Bien sûr, sur Twitter avec le @séanceradio tout attaché.
Voilà. Eh ben, il me reste à remercier tout le monde, Barbara, Jérémy.
Merci.
Et à dire qu'on se retrouve le 1er avril. C'est pas une blague, non, c'est le 1er avril. Le premier mercredi du mois, ce sera peut-être pas le 1er avril pour cette émission. La grande séance, et vous écoutez Séance Radio. À bientôt, à dans un mois.
Merci.
C'était La Grande Séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.